Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur votre radio et ce en direct jusqu'à 1h du matin puisque nous sommes là, toute l'équipe de la Libre Antenne réunie pour vous accueillir chers amis et pour vous écouter, vous raconter, nous parler de vos problématiques, de votre quotidien et puis peut-être envisager ensemble que nous trouvions un peu de lumière, un peu de luminosité, quelques solutions. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre donc au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, et puis toujours nous apporter votre expérience, vos conseils au 739 21, suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace, libreantenne@fr pardon pour vos mails, et puis toujours notre groupe de parole, la Libre Antenne de Sabine Marin et d'Olivier Delacroix sur notre groupe Facebook où vous pouvez écrire à Natacha ou Florian qui se font un plaisir de rentrer en contact avec vous. Bon, j'espère que vous avez passé une agréable journée, que la fin d'après-midi était pour tout le monde assez délicieuse, puisque la France entière baigne dans une chaleur et dans une douceur revenue. Donc, quoi de mieux pour débuter cette nuit, puisque 22h30, ça y est, nous ne sommes pas loin du cœur de la nuit et nous allons en passer une partie ensemble, chers amis. La Libre Antenne du jeudi 28 mai, c'est parti.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Caroline au 39-21. Caroline avec qui nous avons échangé hier soir pour celles et ceux qui n'étaient pas là à la fin de cette émission. Caroline nous faisait part des problèmes qu'elle rencontrait avec son compagnon, un compagnon restaurateur, très travailleur, issu d'une famille de 4 frères et sœurs, avec un père qui l'avait beaucoup inspiré, un père très travailleur, dont il avait sans doute tiré toute l'expérience et tout le courage dont il fait preuve aujourd'hui dans sa vie de restaurateur, avec une période bien évidemment du Covid qui l'a plongé dans un souci certain. Mais cet homme, en fait, qui partage la vie de Caroline, est très très dur et ne cesse de faire des remarques à la fille de Caroline qui est âgée tout juste de 17 ans, une petite qui fait ses études en hôtellerie, donc qui n'a pas choisi les études les plus, enfin en tout cas un corps de métier des plus simples, parce qu'on sait que c'est un métier compliqué. On peut même parler de vocation lorsqu'on parle de la restauration et de l'hôtellerie. Et ce compagnon est extrêmement dur, reprend en permanence cette jeune fille qui n'est là que le week-end, puisqu'elle a décidé d'aller en internat poursuivre ses études d'hôtellerie. Mais malgré cela, Caroline, vous nous avez fait part finalement de ce manque de patience émanant de votre compagnon. Et vous êtes même allé hier soir jusqu'à dire que finalement il ne supportait pas votre fille, ce qui a pour résultat de lui donner de grandes angoisses à cette petite. Elle a mal au ventre régulièrement, elle a perdu confiance en elle à de nombreuses reprises. En tout cas, ce comportement de la part de votre compagnon, au-delà d'être insupportable, d'être devenu insupportable pour vous, au point que vous lui aviez demandé durant le confinement d'aller se réfugier dans un petit appartement, une dépendance que vous avez, et de ne plus venir à la maison, ce comportement, il a une incidence certaine sur votre fille qui perd de plus en plus confiance, et ça, vous ne le supportez plus. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Olivier.
Est-ce que le résumé que j'ai excellent. Fait vous convient ?
Excellent, et c'est très intéressant d'ailleurs d'entendre le retour et la façon dont vous l'avez traduit avec beaucoup de justesse. Effectivement, c'est exactement ça, et j'apprécie aussi la justesse que vous avez eue envers mon compagnon aussi, qui est une personne bien, qui est, comme vous l'avez dit, qui est courageux, qui est travailleur, qui a des valeurs, qui... Tout à fait, ça c'est tout à fait juste. Après, comme vous l'avez très bien dit, le X se situe ailleurs, quoi, hein, sur la relation avec ma fille, quoi, qui est c'est insupportable dans tous les sens du terme. En fait, c'est même douloureux, hein, c'est au-delà de l'insupportable.
Oui, c'est devenu douloureux pour vous et pour elle.
Voilà. Alors pour moi c'est une chose, mais comme vous dites toujours très justement, c'est pour elle aussi. Et ça, c'est elle est en pleine construction, elle est en pleine adolescence, donc c'est pas possible, quoi.
Allez-y, je vous en prie.
Oui, voilà. C'est l'adolescence, c'est compliqué. On sait que parfois, ils font des erreurs. Il y a des petites bêtises, il y a des choses qui se passent. Mais je pense que le dialogue vaut mieux que des remontrances pendant des heures. C'est très répétitif. Ça revient sans arrêt. C'est tout le temps. C'est appuyé, comme je vous disais. C'est du non-verbal. C'est des regards qui sont vraiment pas bienveillants du tout, voire malveillants, quoi. Et c'est pas possible, on peut pas être dans cette relation-là. C'est stressant pour tout le monde, en fait, toute la famille est stressée, quoi.
Lorsque vous décrivez en plus ce regard, on n'a aucune peine, nous qui vous écoutons, à imaginer la pesanteur, le poids que votre compagnon fait peser sur cette petite, mais sur toute la famille.
Mais c'est ça. Sur la famille, les amis, les parents, c'est toujours pesant. Et j'ai essayé, ça fait 4 ans que ça dure, donc je pense être très patiente, être très tolérante. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. J'ai essayé de discuter, je suis dans le dialogue, c'est un peu mon métier, donc j'ai essayé de dire, on parle tous les deux sans. Mais c'est pas possible, en fait. C'est bon, j'ai tort, je suis nulle. C'est une réaction qui n'est pas à la hauteur de ce que j'attends. Moi, je demande que ça, qu'il remplace le papa, mais qu'il joue son rôle de beau-père. Il a le droit d'avoir autorité s'il y a des choses qui ne se passent pas bien. On est complètement d'accord, mais avec des valeurs éducatives communes, quoi.
La conséquence de tout ça, surtout parce que j'ai pensé... La nuit nous a porté conseil, je pense, à vous et à moi. J'ai pensé aujourd'hui, bien évidemment, à votre intervention d'hier soir. Je me disais combien c'était devenu vraiment un choix cornélien pour vous, mais en même temps, il y a non-choix, puisque, comme vous le disiez hier, il n'y aura pas de choix entre votre fille et votre compagnon. Mais je pensais au gâchis produit par cette attitude, parce que on sent que cet homme tient beaucoup à vous, qu'il a construit avec vous, avec ses 3 enfants, puisqu'on a oublié de rappeler que cet homme a lui aussi 3 enfants, que vous connaissez bien, avec qui vous entendez très bien. Donc on sent une aventure de vie réussie entre vous, avec ce point noir là.
Choisi. Il y a une ombre au tableau, mais énorme, qui cache les 3 quarts du tableau.
C'est une ombre surtout qui, si j'ai bien compris, peut totalement remettre en question la viabilité de cette histoire de famille et de votre couple à vous, qu'il s'agit de votre couple.
Voilà, tout à fait. Alors au départ, c'était vraiment j'essaie de me mettre extérieur en me disant c'est une relation entre eux, donc. Je vais essayer de les laisser, parfois j'ai des déplacements professionnels, donc ils se retrouvaient tous les deux. Alors c'est sûr que ma fille fait profil bas dans ces cas-là, elle se tient à carreau, c'est très très très, elle fait tout ce qu'il souhaite, elle sait ce qui convient, ce qui convient pas, même si ça ne lui convient pas à elle. Mais voilà, elle va être très présente, anticiper, de mettre la table, anticiper sur des choses basiques, en fait, des choses de tous les jours. Je pense que c'est le quotidien c'est des petites habitudes, des choses, mais qui tuent le quotidien, quoi, qui sont, enfin, pour moi, je juge ça tellement futile et sans importance. Il y a tellement des choses graves dans la vie que, du coup, comme vous disiez, ça m'a éclairé aussi. J'ai repensé hier soir, parce que j'en ai pas beaucoup parlé de ça, en fait. Vous êtes j'en ai parlé à une ou deux amis, mais qui sont pas sur place. Donc, c'est vraiment la première fois que j'exprime et que vous me retraduisez vraiment avec beaucoup de justesse ce que j'ai voulu dire. Vous avez compris le sens de ce que j'ai voulu exprimer, surtout ce que je ressens. Et en fait, je crois que, au-delà de son côté qui n'est pas bienveillant, j'ai peut-être des attentes qui sont peut-être trop élevées sur ce côté-là, mais j'ai le même rôle, puisque moi je suis aussi belle-mère de ses enfants.
Bien sûr.
Et je vois ce qu'on peut faire ou pas faire, et j'ai essayé de l'aider, de lui dire je peux comprendre que tu ne t'entends pas, que ce soit difficile, qu'elle soit là au quotidien, que tu n'aies pas tes enfants, que tu as une histoire de vie compliquée, toutes les possibilités, les explications. Mais en fait, il n'y a pas d'explication à avoir. Il s'en fiche, en fait. Il ne peut pas discuter. Je ne sais pas comment vous dire. Il n'y a pas de communication.
Vous pensez vraiment qu'il s'en fiche? Moi, ça, je ne pense pas qu'il s'en fiche. Parce que ça a rapport à vous. Donc, même si, devant vous, il va peut-être faire le rustre et dire « je m'en fous », Mais une fois qu'il rentre dans ses cuisines, là, et puis qu'il bougonne et qu'il est face à lui-même, il sait très bien qu'il peut vous
triste,
perdre. Il est triste, cet homme.
Ah il est triste, je le vois, Je le vois qu'il est triste, et moi avec.
Bien sûr, tout le monde doit être triste. Moi, vous savez, j'ai essayé de me mettre à la place de votre fille le vendredi soir quand elle doit rentrer à la maison. Voilà,
c'est le pire. Si elle pouvait poser ses affaires et repartir chez son petit copain, ce que je n'autorise pas parce que, voilà, 17 ans et que c'est pas comme ça marche à la maison, mais il y a parfois où je suis permissive, où je lui, quand c'est l'été comme maintenant, comme l'année dernière, je dis bon, allez, vous pouvez rester jusqu'à 11h du soir devant la maison, on est dans un petit lotissement, il y a plein de jeunes, je dis bon, tu peux y aller parce que je sais que c'est ça. Sa porte de sortie, pour vous dire, mon compagnon, parfois, il dit, ouais, à la maison, on lui dit un truc, on lui fait une remarque, elle se met à pleurer, parce qu'elle est incapable de répondre, elle est tellement sous elle a une émotion peur pour tout. Comme elle a manque de confiance en elle, elle sait pas répondre, dire, mais non, je suis pas d'accord, sainement, elle va pas arriver à le dire, donc elle va se mettre à pleurer, elle va pleurer, mais en silence, en plus, c'est pas une petite qui va faire des crises d'hystérie, elle se met à pleurer, c'est même douloureux pour moi de voir ça. Et puis il me dit, ouais, paradoxalement, je l'ai vu avec ses copains, elle était en train de rire. Et je lui dis, mais heureusement qu'elle rit avec ses amis, quoi. Sinon, elle n'a plus de sas
de
soupape, quoi.
Alors j'ai pensé à deux choses, moi, en fait.
Je vous écoute.
J'ai pensé à une première option, solution, qui tendait plus vers une thérapie couple, mais au final, je me suis ravisé parce que. Même si ça a un impact sur votre couple, l'origine hein, de ce mal qui est en lui hein, et qui fait appel à son histoire, c'est pour ça que j'avais pensé à une thérapie de couple, parce que comme vous êtes un peu de la partie tout de même de par votre métier, on sent que vous avez certaines références, hein, même si comme moi vous n'êtes pas de formation psychothérapeute ou psychologue, mais on sent que vous avez l'habitude d'être confronté à des situations qui entraînent des états psychologiques dont vous avez l'habitude. Et donc du coup, je me disais, bon, une thérapie de couple va peut-être l'amener à se raconter, puisque vous m'avez dit hier soir que vous aviez déjà parlé je ne sais combien de fois d'un psy et que finalement il refuse totalement ce type d'option. Malheureusement d'ailleurs, parce que je pense que cet homme, avant d'avoir un problème avec votre fille, il a un problème avec lui, en fait. Ça traduit obligatoirement quelque chose, son attitude avec
cette petite. Ça lui renvoie quelque chose que je ne connais pas, parce que je ne connais pas toute son histoire. Il est assez secret, en plus, dans la famille. J'ai l'impression qu'il y a plein de secrets de famille dans sa propre famille. C'est une famille comme les familles corses. Il n'est pas corse, mais bon, on n'est pas loin. C'est des familles très, très anciennes, très... il me semble qu'il y a plein de secrets de famille. Bon, après, j'ai pas de lien avec sa famille. Le papa est très âgé, il est en EHPAD, donc j'ai pas de relation. Il y a des choses que je connais pas et puis je ne saurais jamais. Mais
il n'a pas été adopté, votre mari?
Pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je pense qu'il a une grosse culpabilité de sa maman est décédée. Il avait 15 mois.
D'accord.
Et elle avait une tumeur, je pense, une tumeur cérébrale, et elle a eu cette tumeur en tombant enceinte. Et je pense que nombre de la famille tiennent peut-être ce bébé responsable de son décès, quoi. Puisque la maladie a évolué avec la grossesse, etc. Et qu'à l'époque, je suppose qu'on choisissait pas d'être enceinte en étant dans cette situation-là malade, quoi. Et qu'elle a quand même assumé. Et que je pense que quelque part, il porte une culpabilité inconsciente. Hein. On est d'accord, on n'est pas sûr du... Personne ne lui a dit ouvertement, mais il a été élevé en partie par ses grands-parents parce qu'il était trop petit pour suivre les frères et sœurs. Et les grands-parents, c'était les parents de la maman qui est décédée, quoi. C'est leur fille. Donc je pense qu'il y a quand même des histoires lourdes derrière.
Il a obligatoirement quelque chose à régler, mais bon, j'ai repensé à ce que vous me disiez, et donc son refus, il ne prend même pas au sérieux cette option-là, donc c'est compliqué hein, d'aller sur ce terrain-là avec lui. Et après, j'ai pensé à la médiation familiale. La médiation familiale, vous devez avoir entendu parler de cette médiation qui s'occupe tout de même comme son nom l'indique, d'envoyer des femmes et des hommes qui sont des médiateurs un temps et qui font parler un couple ou qui font parler les uns et les autres pour résoudre le problème, parce que finalement, ça rend malheureux tout le monde, cette histoire, s'il ne l'est pas encore, si vous lui annoncez que ça remet fortement en question votre couple, je pense que malheureux, il va l'être, s'il ne l'est pas déjà.
J'ai annoncé la rupture, hein, c'est tout récent, mais la fin du confinement, les deux dernières semaines, ça a été ça, quoi. J'ai annoncé, bon, après on travaille ensemble, donc...
Comment a-t-il pris cette annonce d'ailleurs?
Bon, d'abord par la colère, il est passé par toutes les étapes, la colère, puis la tristesse, puis de l'humour pour revenir me rechercher, puis de nouveau de la colère parce qu'on ne tombe pas d'accord, et puis et on oscille toujours entre toutes ces émotions, quoi, ça passe par toutes les couleurs... des émotions qui puissent exister, quoi.
Bon, déjà, il y a un espoir. Et l'espoir qu'on peut voir dans cette attitude, c'est qu'il tient à vous, hein, puisqu'il tente de vous récupérer avec l'humour. S'il est en colère, c'est que ça le touche. S'il est triste, eh bien, ça le touche aussi. Moi, voilà,
évidemment... Oui, je pense ça aussi, ce que vous dites, je le pense aussi, parce que, bon, je le connais, je sais, on ne peut pas ne plus s'aimer en 15 jours, quoi.
Mais non.
J'ai accepté jusqu'à maintenant, donc, sauf que là, ça atteint le point de rupture.
Et puis, il y a quand même un projet de vie. Vous travaillez ensemble,
ben oui,
maintenant.
On a construit, ouais.
Vous avez construit beaucoup de choses ensemble, donc je pense que ça, il y est attaché. Et non, j'étais en train de voilà, aujourd'hui, de me dire que la médiation familiale permettrait peut-être qu'ils entendent, parce qu'au même titre qu'une thérapie de couple, vous serez amenés les uns et les autres à parler et puis à écouter les propos des uns et des autres. Et je pense que
c'est important. Et je pense de comparer. Vous avez un son de cloche, le mien, ce soir. Mais effectivement, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Hein.
Moi, je serais ravi, hein, de pouvoir parler à ce monsieur et lui demander si voir son couple exploser pour ses humeurs par rapport à une gamine de 17 ans, si tout cela est bien sérieux d'abord, et si en plus tout cela en vaut la peine, parce que votre fille, encore une fois, vous nous l'avez décrite, elle n'est c'est une petite qui est comme toutes les autres petites, la majorité des petites de 17 ans, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas dans une crise d'adolescence, elle se tient quand même relativement à carreau, votre petite.
Tout à fait. Après, voilà, elle a ses petits, elle a son caractère comme tout le monde, c'est bien. Enfin, elle ne fait rien de grave, quoi. En tout cas, quand il y a des choses, il n'y a rien qui s'est passé de grave, mais quand il y a des bêtises, ou une fois où elle n'est pas rentrée à l'heure, elle était partie. T'es parti à une fête dans un village à côté alors que c'était pas autorisé, mais ça, il le sait même pas, lui. Parce que je pouvais rien dire, sinon, là, il surenchérit la chose. Mais bon, voilà, moi, je recadre les choses. Et encore, elle me dit, ouais, mais j'avais pas le choix. Si je le faisais pas, je perdais tous mes copains. Bon, c'est des choses d'ado. Enfin, y a rien de grave. Voilà, elle m'a désobéi sur une chose. Mais quel ado ne désobéit pas? Enfin, à la limite, des ados trop parfaits, moi, ça me conviendrait pas. On a tous eu 17 ans. Et puis je vous parle quand même, elle a 17 ans aujourd'hui, mais ça dure depuis 3-4 ans, donc elle avait 13-14
ans.
Voilà, c'était des heures sur les devoirs quand il fallait des gelettes sur les maths, mais j'ai arrêté parce que c'était pendant 3h30 d'affilée, une petite qui est dyslexique, qui a du mal à se concentrer plus d'un quart d'heure, vous comprenez bien qu'au bout de 3 heures, elle est à bout de nerfs, quoi, c'est plus gérable, quoi. Donc il y a des choses, ils ne comprenaient pas. Ça, il ne peut pas comprendre qu'elle ne fonctionne pas comme, comme tous les enfants au niveau scolaire. Quoi. Il faut des temps, il faut des pauses, il faut. Voilà, on travaillait beaucoup avec l'ordi. J'ai vu que ça m'a. Là, elle travaille beaucoup en visio avec les profs et puis beaucoup de choses, au lieu d'écrire papier, crayon, elle écrit sur l'ordinateur. Mais je vois qu'elle a fait des progrès, mais énormes. Quoi. C'est fou, elle écrit 3 fois plus vite. C'est un outil qu'on aurait dû voir avant, par exemple, pour
mais
elle.
Le problème, c'est que vous affrontez avec cette petite, c'est elle qui l'affronte, ça. Hein. Il faut le rappeler.
Ah oui, c'est elle, celle qui est en souffrance plus que nous. Hein.
Et puis ces enfants-là, en fait, ont du mal à se concentrer. Dyslexie, dyspraxie sont des maladies en fait. Ce sont je sais pas si on appelle ça ce sont des troubles, voilà, c'est le mot.
Des troubles, voilà.
Sont des troubles qui sont en plus excessivement fatigants, hein, pour l'enfant. Il faut pas oublier que au bout de 15-20 minutes de concentration, eh bien ces enfants, ils sont pas comme un enfant qui a a toutes ces facultés. Ils sont fatigués, ils peuvent être dans la lune, d'où parfois une maladresse, d'où parfois être dans la lune ou oublier de puis ranger ceci, cela. Bon, voilà. C'est... Ce qui est malheureux, c'est qu'il ne comprend pas.
Il ne l'admet pas, c'est non. Même pas le comprendre. Puis, pour lui, c'est pas vrai.
Oui, mais c'est parce que...
Elle le fait exprès. C'est incroyable.
C'est ce que j'allais vous dire, en fait. C'est que pour lui, en fait, le problème, je vais vous dire, Caroline, c'est qu'il n'y a pas le début d'une tentative de comprendre, en fait, dans tout ce que vous me dites. C'est-à-dire que si cet homme faisait l'effort de tenter de comprendre et laisser...
Table rase et on part à zéro en regardant
nos
perdre.
Oui, mais surtout, laisser quelqu'un lui expliquer que cet enfant, elle ne fait pas du tout exprès d'être comme elle est, que voilà, qu'elle est déconcentrée et fatiguée au bout de 15-20 minutes, que si elle fait des fautes, c'est qu'il y a cette dyspraxie, il y a cette dyslexie, et que c'est déjà extrêmement troublant pour elle, parce que écrire trois lignes, on fait 7, 8, 10, 12.
Ah oui, elle avait des crampes dans la main, elle est gauchère contrariée, de surcroît, son papa est gaucher, je suis droitière, et elle était ambidextre jusqu'à l'âge de 6 ans, elle a été ambidextre, elle écrivait une main, l'autre. Et il y a une institut en CP, je l'ai pas su, en dernière année maternelle, qui a dit, bon, allez, ça suffit, maintenant, on va mettre le stylo à droite, et du coup, elle est droitière. Et on pense que la psychomotricienne m'a dit, oui, elle a tout d'une gauchère, quoi. D'ailleurs, elle mange comme une gauchère, mais bon, maintenant, elle écrit de la main droite. Donc, c'est une écriture aussi qui est pas top. Donc, on sait quand même les effets que ça a sur le cerveau. Je me suis formée, hein, la dyslexie, la dyspraxie, je peux vous dire, j'en ai lu des bouquins dessus, dont un qui s'appelle le don de dyslexie, c'est-à-dire qu'adulte, on arrive à en faire justement un don et un plus, mais elle n'en est pas là, quoi. Elle est trop jeune pour ça. Et puis, il y a tout un côté où les maladresses, elles ne sont pas que physiques, elles sont aussi intellectuelles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une information n'est pas comprise comme 80% ou 90% des gens
elle
vont
n'est
la comprendre.
Perçue, elle n'est pas, l'information n'est pas
voilà,
perçue.
Voilà, elle n'est pas perçue de la même façon.
Manière.
Elle va y voir un côté affectif, il n'y en a pas. Mm-hmm. Et puis finalement, elle va avoir un côté où il ne devrait pas y avoir d'affectif et elle ne voit que cet aspect-là. Mm-hmm. Ces enfants-là, ils adorent les animaux, donc elle a fait de l'équitation pendant mm-hmm. des années. Elle
et voulait... ce qui lui échappe à votre mari aussi, c'est que peut-être cette petite, comme vous appelez ça, il n'y a pas d'affectif, mais souvent ces enfants-là manquent de projection, c'est-à-dire que de discernement et de projection, et donc du coup, je pense qu'il prend votre fille pour une petite qui est imbue de sa personne, qui est peut-être qui ne pense qu'à elle et qui ne pense pas aux autres. Il y a tout un
oui, il y a un peu de ça,
il y a une perception d'elle qui est complètement faussée, et donc il y a quand même un sacré travail de compréhension qu'il doit impérativement faire, autrement, vous allez droit dans le mur avec lui, ça c'est clair et net.
Ah mais ça c'est sûr.
Et d'où mon idée de médiateur.
Ouais. Je pense que ça c'est une idée, mais voilà, parce que moi je voulais aller voir un psy toute seule pour en parler déjà, parce que ça m'a, il faut que j'ai une écoute aussi là-dessus, parce qu'à un moment donné on en perd son latin, quoi, on sait plus qui est dans le vrai, qui est dans le faux, je me dis c'est moi qui suis pas, je reviens à me mettre même moi en cause, alors que quand même je suis juste observatrice de la situation, quoi, enfin, bon, participatrice, mais observatrice de leur relation à eux deux, et parfois je ne retrouve plus mon, je sais plus quoi. Et pour vous dire, juste une parenthèse très courte, mais pour vous dire, si les gens ne connaissent pas la dyslexie, et même les enseignants ne connaissent pas, elle avait ma fille en quatrième, elle a eu ce qu'on appelle un PTRE, donc c'est une aide pour les devoirs, c'est-à-dire soit elle avait un temps un peu plus long pour faire des exercices, c'était surtout en maths, parce que c'est abstrait, et là la difficulté elle est assez importante, donc elle avait un temps plus long, et pour certains devoirs, elle avait le droit d'avoir le livre à côté. Mais quand ce sont des problèmes, ça change rien, hein. Qu'il y ait le livre ou pas pour un dyslexique ou un dyscalculique, ça ne change strictement rien. On était en réunion pédagogique, donc il y avait l'enseignant de maths, il y avait la directrice, il y avait la psychomotricienne, il y avait la psychologue qui lui s'est passé des tests pour dire qu'effectivement elle a un QI normal, mais qu'il y a bien une dyslexie assez quand même importante, surtout à certaines étapes dans la logico-maths, et le prof de maths. Ben, le prof de maths, il est parti en pleine réunion en disant, oui, bon, écoutez, s'il faut lui donner les réponses dans une interro, dans un contrôle, je vois pas l'intérêt, il s'est levé, il est parti.
Mmh, ben vous êtes tombé sur un ignare doublé d'un crétin, parce que aujourd'hui il y a tellement d'enfants qui qui aujourd'hui souffrent de ce type de troubles.
10 enfants dans une classe de 30 ben oui, ont des
donc,
troubles.
Voilà. Et avec une académie qui ne donne toujours pas de formation complète à ses professeurs et à ses instituteurs. On est à la bourre complètement en France par rapport à toutes ces problématiques-là.
Vous voyez en Belgique ou au Canada, ils sont...
En Belgique, parlons de la Belgique. Nous sommes à côté, et en Belgique, on a déjà compris qu'en Europe du Nord, ils ont entendu parler ça par leurs cousins d'Europe du Nord, et puis ils ont appliqué ça, parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, 10 enfants sur 30 dans une classe, on comprend qu'on...
On
comprend pourquoi ce prof de maths, là, lui, si on ne lui a pas donné de formation, tout à coup, ce dont vous parliez en réunion, pour lui, c'était du chinois. Et puis surtout, il se disait, mais enfin, voilà, on ne m'a pas formé à ça. Et puis, son attitude de se lever et de partir traduit
c'est
aussi.
Violent, pour une maman.
Ça traduit aussi une partie de ces professeurs aussi qui n'ont pas envie qui sont un peu. Vous voyez ce que je veux dire, quoi.
Ils n'ont pas de formation.
Ils n'ont pas envie de faire plus que leur mission, quoi. Alors qu'aujourd'hui.
Pour vous dire, c'est ça.
Notre société aujourd'hui, elle produit beaucoup de ces enfants 10 parce que on ne connaît pas les origines de tout cela, mais aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup plus d'enfants 10 et on est en train de s'apercevoir que tout cela est sans doute lié à la nourriture et à tous ces conservateurs que nous ingurgitons depuis maintenant
des
décennies.
Endocriniens et compagnie.
Voilà. Et donc il faut vraiment prendre renseignements, Caroline, et essayer de vous renseigner au moins dans un premier temps sur cette médiation familiale. Il faut que vous vous rapprochiez.
Et auprès de qui on peut se renseigner ?
Alors, c'est le Conseil général qui finance les médiations familiales. Vous qui êtes sur le bassin d'Arcachon, il y en a obligatoirement à Bordeaux, ça c'est clair.
Oui, tout à fait.
Mais il est fort possible qu'il y en ait une plus proche, puisque vous avez quand même cette commune de Lèche-Cap-Ferré aussi qui est c'est loin de chez vous, Lèche-Cap-Ferré, ou c'est
Non, on est pile nous au milieu du bassin, donc on est aussi loin de Lèche que d'Arcachon.
D'accord. Vous êtes loin. Il y a Andernos aussi qui est pas loin de chez vous. Donc du coup, il y a quand même de plus en plus de monde là, et il est fort possible qu'il y ait une médiation familiale aussi, que le Conseil général vous indique un médiateur familial dans votre région. En tout cas, ça peut passer par là, parce que le médiateur familial ferait comme
il entend les trois.
Il entend les trois surtout, mais je pense que son rôle, en tout cas moi, si je devais parler à votre homme, je lui poserais la question déjà à monsieur s'il a bien compris ce dont souffrait, quels étaient les troubles de sa belle-fille, et je le lui expliquerais déjà pour qu'il comprenne, pour qu'il arrive à comprendre que cette petite, elle n'intente rien contre lui, elle n'a pas une attitude...
Oui, il est très égocentré, effectivement. Il a l'impression que c'est toujours contre lui.
Mais oui. Mais non, j'ai bien saisi la nature
tout à fait.
Mais ça, c'est parce qu'il n'a pas les clés et qu'il ne comprend pas et qu'il interprète tout.
Tout à fait. Et moi, je ne peux pas lui expliquer. Je suis jugée partie et ça ne fonctionne pas.
Non, et puis... là, il y a vraiment besoin d'une tierce personne. Encore une fois, je vous dis qu'il lui explique... à lui, et c'est le rôle de cette médiation familiale, c'est vraiment d'entendre tout le monde et d'apprendre justement à tout le monde à s'écouter, écouter l'autre et à essayer de percevoir si les arguments des uns ont bien été perçus par les autres et perçus de la bonne manière, parce que je pense que le médiateur va lui dire que ça le rend malheureux, cette histoire, que c'est en train de détruire sa famille et que cette petite, elle n'y est pour rien et que elle attend sûrement plus un soutien de sa part en ce moment, même inconsciemment, il est en train de la détruire. Donc je pense qu'un médiateur peut lui expliquer ça.
Oui, parce qu'elle porte le poids de la culpabilité de la rupture de notre couple, quoi. Il lui a dit, de toute façon, tous les problèmes qu'il y a à la maison, c'est à cause de toi. Il lui a dit en face.
Il est dur.
C'est là où ça m'a achevé. J'ai dit, bon, stop, là.
Il est quand même
action-réaction, quoi.
Il va falloir lui faire travailler la finesse, comme on les fait travailler au rugby. Il sait ce que c'est, la finesse au rugby, la subtilité. Tenez-moi au courant, ma chère Caroline.
Écoutez, Olivier, un grand merci. Alors, vous n'êtes pas psychologue, mais excellent dans l'analyse. Vous avez une perception très juste des mots de chacun, et ça, je m'en aperçois pour tous les
bah écoutez,
chaque fois que j'écoute la libre antenne.
J'essaye, j'essaye.
Continuez
j'essaie
comme ça, c'est très bien.
Merci. Et puis je compte vraiment sur vous pour me tenir au courant du résultat,
oui,
et même de son approbation ou non. Autrement, on cherchera autre chose.
De
d'accord.
Cette solution.
Ok.
Super.
Portez-vous bien.
Merci beaucoup,
et bon
merci.
Vent là-bas du côté du
ah,
bassin
oui,
d'Arcachon.
On va profiter de la plage un petit peu. Ça
okay.
y est, c'est ouvert.
Au revoir.
Merci beaucoup. Bonsoir, Olivier.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.